RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour à tous.
Le meilleur des grandes gueules, c'est à déguster cet été. En attendant le retour des GG le 10 août prochain, en direct bien sûr.
On va réécouter les meilleures discussions des grandes gueules. On a parlé notamment des pistes cyclables, tutelle, les commerces, Sophie la girafe. Et oui, on parle de tout dans les grandes gueules. Made in France, Sophie la girafe, Made in France. Est-ce qu'on nous aurait menti?
Bref, on réécoute tout ça avec plaisir et sans modération.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt Picsou ou plutôt généreux en ce qui concerne les pourboires? La moyenne, c'est 3,10 €. C'est ce que dit une dernière étude concernant ce qu'on laisse au serveur, au restaurant ou au bar.
Oui, quand même une étude qui montre que les Français sont plutôt généreux. Ils sont nombreux à laisser des pourboires, sachant quand même que le service est compris. On n'est pas aux États-Unis, ce qui fait qu'a priori, on n'est pas obligé de laisser un pourboire. Donc, c'est plutôt... En plus, parfois, on peut se plaindre des notes un peu salées de certains restaurants. Donc on n'hésite pas à laisser un pourboire. Tu le constates, toi, Yves?
Alors moi je pense que les Français sont généreux, mais sont généreux si on est généreux avec.
Exactement.
Moi qui ai tenu toute ma carrière des restaurants, il y avait des employés qui faisaient facilement 5 fois plus de pourboire que les autres, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils étaient souriants, qu'ils étaient accueillants, qu'ils étaient au service du client. Et quand on est gentil avec les gens sont gentils avec toi. C'est aussi simple que ça. Les gens qui se plaignent et qui disent que les gens, c'est des radins, mais c'est eux qui sont radins dans leur comportement. Voilà. Ça, c'est une certitude.
Tu donnais des consignes. Comment tu disais au serveur, justement, de...
Mais, parce qu'il veut faire de l'argent, il est poli.
De bien faire leur métier.
Quand une personne arrive, reçois-les comme si c'était ton frère, comme si c'était ton papa, ta maman. Voilà. Avec de l'affection, avec de l'amour, avec de la passion. Et quand vous êtes client, que vous êtes reçu avec le sourire, avec la gentillesse, que vous demandez des explications parce que vous comprenez pas, qu'on vous prend pas pour un idiot à vous dire, mais comment ça, vous savez pas d'où vient le beurre Jean-Yves Bordier? Qu'on explique. Jean-Yves Bordier, c'est un maître beurrier qui vient de Saint-Malo, qui bat son beurre. Quand on est gentil, quand on explique, ben les gens sont généreux. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Sois gentil, les gens seront gentils avec toi. Les Français sont pas radins, c'est pas vrai. Moi, le premier, quand je suis mal servi, quand les gens se comportent rien, je ne laisse rien. Mmh. Et si les gens sont présents, sont professionnels, et qu'ils ont de l'empathie et qui ont compris que le client,
d'accord,
c'était la personne la plus importante de l'établissement, parce que c'est grâce au client que l'ensemble, d'accord, de l'établissement va,
mais,
vivre.
Pardon, mais la nouveauté, c'est quand même les pourboires un peu forcés.
Alors,
tu présentes le terminal, et il y a déjà les pourcentages de pourboires à laisser. Comme c'est le serveur qui te le tend, t'oses pas mettre 0%, mais c'est un peu forcé, on force un peu la main. Alors, moi, j'aimais bien l'idée que, alors, le problème, c'est que j'en ai plus de liquide, mais j'aimais bien l'idée que, c'est toi qui mettais, même d'ailleurs quand le serveur n'était pas là, et c'était un geste généreux. Là, c'est un geste un peu forcé.
Tu as donné l'explication, et t'as expliqué pourquoi en même temps.
Oui, oui.
Voilà.
Ben oui,
malheureusement, les gens n'ont plus de liquide. Donc les gens pas de carte bleue. Alors, moi j'ai connu.
Oui, mais on laisse ça pour voir pour pas être mal à l'aise.
J'ai connu l'avant. Je peux t'assurer que comptablement, avant, comment on faisait pour déduire les pourboires?
C'était compliqué.
Mais c'était pas faisable. On a arrêté. La comptable devenait folle. Il fallait retirer de l'argent encaissé pour le rendre en liquide au personnel.
Non, mais je comprends que c'est plus pratique. Et moi, je préférais, par exemple, quand tu dis, voilà, vous me devez 18 €, mais toi, tu arrondis à 20.
Exactement.
Avec la carte, et ça fait le pourboire. Je trouve ça plus généreux que le truc où il s'est marqué, où il y a marqué 15, 20, 30.
Oui, mais on l'acceptait pas. Quand tu étais capable de donner 2 €, toi, de générosité, parce que le gars avait fait son boulot, on lui disait, non, tu le fais pas. Donc il vous disait, non monsieur, on peut pas mettre les pourboires. Donc il n'avait pas de pourboire. Le fait des cartes bleues, c'est que je finis après.
Vas-y.
Le fait que les cartes bleues aient accepté le pourboire,
c'est pour
on
ça.
A augmenté de 20%.
Bah oui.
Les pourboires un peu personnels. Bah et oui. Je suis pas d'accord quand tu dis que c'est forcé. Tu as le droit de dire.
Augmenté, hein.
Non, tu as.
Ah non, quand j'ai pas envie, tu peux me mettre. Tu peux me mettre le pourcentage sous le nez, hein. J'ai aucun problème.
Si je suis pas content du service, si je suis pas content du comportement, je ne donne pas.
J'ai aucun problème. Elle lui dit genre.
Nicolas veut intervenir.
C'est quand même un vrai plus.
Nicolas, qui est artisan vigneron dans le Vaucluse. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes généreux, vous, dans les pourboires, ou vous attendez qu'on vous montre le montant et puis vous acceptez ou pas? Comment ça se passe?
Non. Ben, en fait, nous, on y va un petit peu moins, mais en général, on y va une fois par semaine, une fois tous les 15 jours avec ma femme. C'est notre petit moment, on est à nos comptes tous les deux, donc c'est notre petit moment tous les deux à midi. Et en fait, on laisse un pourboire, vraiment, si le service, on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez, c'est exactement. Vraiment, c'est le sourire du serveur, qui fasse bien son boulot, ça c'est classique, mais si on voit vraiment que il est, très dynamique, surtout chez les jeunes, hein, mais très dynamique, au petit soin, c'est ça, le petit truc pour, si on y va avec les enfants, je sais pas, moi, le petit crayon, la petite feuille de papier, c'est le truc.
Exactement. Non, mais en fait, la considération.
Mais Nicolas, vous avez raison, c'est juste du bon sens.
Personnellement, si le serveur il s'est pas occupé de moi correctement, j'ai aucun problème.
Mais vous préférez, Nicolas, décider du montant ou qu'on vous mette le montant sur le terminal?
En général, c'est ce que j'ai dans la poche, je mets entre 3 et 5 euros, je mets quand même 7. Moi, par le terminal, ça me gênerait, j'ai l'impression d'être forcé et j'aime pas ça. Et par contre, voilà, il faut vraiment que. Nous, quand on se range, c'est plus juste, c'est-à-dire qu'on prend l'apéro, on mange bien, on prend le dessert, on prend le café, voilà, on essaye de que c'est un commerce qui vit, quoi. Il y a vraiment besoin
bien
de
sûr,
ça.
Bien sûr, bien sûr.
Et le plus, et surtout si chez les jeunes, parce que les jeunes, ils sont souvent stigmatisés. Moi, je vois pendant les vendanges, j'ai que des enfants entre 17 et 19 ans, hein, parce qu'ils ont envie de travailler, parce qu'ils sont dispo, parce que voilà. Et donc, je mets le petit plus parce que ça me fait plaisir. Mais par contre, si c'est sur le terminal de paiement, non, je le ferai pas.
Nicolas, c'est dommage parce que je vous promets que c'est pas forcé, c'est que comptablement
c'est plus facile pour le restaurateur.
Plus facile. Et aujourd'hui, après, tout le monde a la carte bleue. Il faut vraiment l'intégrer.
Moi, je suis un peu comme Nicolas et un peu comme Yves, c'est-à-dire que moi, j'aime regarder comment le serveur ou la serveuse se démène en fait pour t'apporter un service de qualité. Ouais. Comment il se démène pour ma table, mais j'aime observer aussi comment il se démène avec les autres en fait. Et on voit que c'est un métier extrêmement difficile. Extrêmement physique, contrairement à ce que l'on croit. Il faut une adresse qu'on n'imagine même pas, que tu sois dans une brasserie pour boire un verre ou que tu sois dans un restaurant pour prendre une bonne bouffe. Et effectivement, quand il y a le sourire, et même quand des fois le serveur ou la serveuse est un peu tendu parce qu'il y a du monde, je vais donner parce que je veux récompenser le travail bien fait.
Tout simplement. Prends l'exemple du facteur. Mon facteur, mais je l'aime.
Est-ce que vous êtes toujours généreux dans les pourboires, oui ou non? On va voir votre sentiment, qu'est-ce que vous en dites. Ah non, pas du tout, vous voyez, 69%. Parce que peut-être le service aujourd'hui n'est pas à la hauteur, quoi, tout simplement.
Parce que déjà tu as le prix à payer, qui
pouvoir juger prohibitif.
Autour de la table, il y a que Flora qui connaît. Hein.
Évidemment, je suis la seule à avoir mon de 50 ans dans l'âme.
C'est vrai.
Niska. C'est Niska.
Ah oui.
Réseau.
Ah oui.
Je connais pas.
J'ai vu, c'est Lolo. Ça te choque, Emmanuel?
Non, je suis allé récemment dans un grand festival de musique techno au Touquet.
Ah bon?
C'était absolument incroyable. Il y avait des milliers de personnes. C'est d'ampleur européenne. Il y avait les plus grands. C'était inouï. Bah, ça m'a plu pour voir. Mais bon, après, j'avais vu, je suis reparti quand même.
T'as pris de l'extra?
Non.
Il n'y en a pas besoin.
Des
il n'en a pas besoin, Emmanuel.
Bon, alors, que dit cette étude de l'ARCOM sur les jeunes et les réseaux sociaux?
Eh bien, l'ARCOM, et on les salue, nous montre que près d'un quart des enfants de 11 ans, 22%, disent avoir commencé les réseaux sociaux avant leur 10e anniversaire. Donc ça va même plus loin, c'est-à-dire que ils ont 11 ans et ils disent mais avant les 10 ans, on avait déjà commencé à être sur les réseaux sociaux. On voit donc qu'il y a une exposition de plus en plus précoce. C'est l'un des enseignements de cette étude. Moi ce qui m'interpelle, c'est que pourtant il y a tout un discours moraliste, hein, des autorités, ne mettez pas vos enfants devant les écrans, etc. et ça ne prend pas. Donc il va falloir changer de méthode. Alors il y a soit ceux qui disent il faut interdire, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit, il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants. Bon, alors ça va pas être évident à mettre en place, donc on n'a pas encore le mode opératoire. Et puis il y a d'autres qui disent c'est la responsabilité individuelle, et c'est la responsabilité surtout des parents qui doivent s'emparer du sujet et qui ne doivent pas avoir peur d'imposer des règles à leurs enfants sur les tablettes ou les smartphones.
Ben prenons un exemple concret, celui de David. Il nous a appelé tout de suite du côté de la Haute-Garonne. Il est délégué hospitalier. Bonjour David.
Ouais, bonjour à tous.
Salut. Vous avez mis des règles tout de suite avec vos enfants?
Non, alors c'est pas tant des règles que ça. C'est surtout vraiment surveiller. Moi, j'ai une appétence forte pour tout ce qui est écran, on va dire. Moi-même, je suis un peu un geek. Et donc j'aime bien et je suis TikTok, Instagram, enfin tout ce que vous voulez. Le problème, il est dans l'accès des petits. Alors j'entends interdire les mineurs, etc. Vous pourrez rien interdire. Ils savent faire très très bien. Ils savent faire croire qu'ils ont tel âge, récupérer un autre téléphone. Enfin peu importe, ils accéderont quand même. Le problème, c'est ce qui passe. C'est une des applications les pires et les contenus qui sont les pires, c'est certainement sur TikTok, avec des algorithmes en fait qui vont enfoncer les jeunes. Ils vont commencer à regarder ça et puis ça va arriver jusqu'à des gens qui vont leur expliquer comment se suicider. Vous voyez, on en arrive là sur TikTok, ce qui n'existe pas en Chine, alors que c'est chinois, parce qu'en Chine c'est régulé, c'est-à-dire
il y a un TikTok particulier.
Voilà, donc l'interdiction de l'accès, faut pas y croire une seconde, ils sauront accéder à ces contenus. En revanche, c'est le contenu lui-même qui doit être régulé par les autorités. C'est qu'est-ce qu'il y a sur ces plateformes. Et si vous prenez le TikTok chinois, c'est comment être plus performant en mathématiques, comment bien apprendre ses leçons, comment faire ça. Le TikTok français, c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est ultra agaçant. Et les parents doivent surveiller le contenu, mais pas.
Donc
pas
c'est une double responsabilité.
Vous n'y arriverez pas. Ouais, à l'extérieur, ils y arriveront à y accéder. C'est des fausses barbes, tout ça.
Ouais, c'est une double responsabilité à la fois, quand même, des parents de regarder puisque, et limiter les contenus. Flora
Cette
Gabali.
Étude de l'ARCOM, elle démontre bien que la ligne que Charles a souvent dans l'émission, qui est de dire les enfants ont des parents et c'est les parents qui doivent s'occuper de ses affaires privées, si je résume, est fausse. Parce que bien sûr qu'il y a des parents qui sont deux déjà, puisqu'aujourd'hui il y a un quart des enfants qui grandissent en famille monoparentale. Donc ça concerne que trois quarts des familles où les parents sont deux et qui vont avoir du temps parce qu'ils ont des horaires qui sont compatibles avec une vie de famille et qui vont avoir l'intention de protéger les enfants des écrans. J'étais dans un train l'autre jour et à côté de moi il y avait une maman qui était avec son bébé et le bébé pleurait. Bon, c'est vrai que les bébés dans les trains, on sait que
parfois bébé, c'est un peu pleure aussi,
ça pleure aussi, mais parfois on sait que c'est un peu embarrassant quand on est avec un bébé dans un train.
Pour ça, qu'il faut pas prendre le train en seconde.
Elle lui a foutu le téléphone dans les yeux au bébé pendant tout le trajet et en fait ça l'a calmé immédiatement. On le sait, les écrans c'est puissant, c'est des addictions.
Une nounou,
vous le voyez
en fait.
Quand vous avez un bébé tout petit, vous prenez votre téléphone, il veut le prendre, il le voit tout de suite alors qu'il sait même pas encore lire, écrire, parler. Donc en fait si seuls les parents pouvaient régler ce problème, ça se saurait. Et comme l'a très bien dit notre auditeur, il y a des pays dans lesquels on met des règles aux plateformes aujourd'hui, et ça je vous jure que c'est vrai. Quand les plateformes sont convoquées par l'État pour des réunions de régulation, elles ne viennent pas. Voilà. Ah oui. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est plusieurs fonctionnaires qui me l'ont dit, de Matignon, des conseillers en cabinet, des fonctionnaires qui m'ont dit. On fait des réunions avec eux sur différents sujets. Il y en a un sur quatre qui se pointe. Donc, en fait, quand on veut un État fort, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, pour avoir un État qui est supérieur à des entreprises qui plus est, qui collectent toutes nos données, que ce soit pour la Chine ou pour les Américains, quand on veut un État fort, on y met les moyens.
Emmanuel.
En tout respect pour David, moi je pense le contraire, parce qu'il a pris l'exemple de la Chine qui est un pays communiste autoritaire. On ne pourra jamais arriver à des régulations aussi efficaces que la Chine, et j'allais dire heureusement. Non, moi je pense que en disant l'inverse, c'est que c'est au niveau des familles, c'est au niveau de l'accès à la plateforme et
sur
non
le
pas
tabac,
dans le contenu
on y arrive
de
très
la
bien,
plateforme.
Par exemple.
Tu permets, je suis père de famille, j'ai une expérience, je pense, antérieure à la tienne. Quand les enfants sont suivis, je suis désolé, on arrive quand même à fixer des règles. C'est pas n'importe quoi non plus.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules. Three,
je vois tous ces bobos avec leur vélo électrique, leur vélo cargo, les machins sont plus grands qu'un bus, tu vois. Non mais ça, c'est un truc de droite, hein. faut être raisonnable. Hein.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Ah, c'est
à bicyclette.
En fait, l'idée de la discussion nous est venue en partant de ce qui se passe à Bron, où il crée une nouvelle ligne de bus accompagnée d'une piste cyclable Mais du coup, c'est une boulangerie qui est là et qui dit, mais moi, plus personne va s'arrêter. On peut même plus s'arrêter en double file pour acheter le pain. Et donc, elle dit, bah, c'est presque mon existence économique qui est menacée.
Ah bah, la boulangerie va devoir fermer parce que ce qui est important, c'est cette piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large que la métropole de Lyon défend. Et donc, effectivement, le commerce gêne et donc il va devoir fermer. On a connu ça à Paris avec la rue de Rivoli, où ils ont fait quasiment des pistes d'aéroport. C'est pas des pistes cyclables, c'est des pistes d'aéroport. Je suis encore passé hier, j'étais effaré. Donc les voitures sont bien sûr. Il y a un embouteillage non-stop toute la journée sur une seule voie. Et il y a deux pistes d'aéroport qui servent aussi les voitures autorisées, alors les riverains taxi, et les taxis. Hein. Et donc tu as deux pistes. D'ailleurs, il y avait une piste qui était vide. Il y a tellement de place que même les vélos, ça ne peut plus où passer. Donc il y a un côté effectivement un peu bête et méchant. Le vélo en ville, c'est sympa, les pistes cyclables, mais est-ce que ça doit se faire au détriment de l'activité économique, du commerce et d'une boulangerie?
32-16 pour le dire aux grandes gueules, Bruno.
Non, mais en fait, ce qui tue les petits commerces, c'est quand même cette création de zones commerciales hors des villes. Ah, moi, je vois, le centre-ville de Vierzon a pris un coup dans la gueule une fois qu'ils ont créé cette espèce de truc en dehors de Vierzon. Et là, maintenant, ils commencent à revenir un peu dans le centre-ville. Mais en fait, c'est ça qui tue. Après, quand j'entends que les mecs se plaignent en disant, ouais, on peut pas se mettre en double file. Enfin, excuse-moi, double file, c'est quand même pas autorisé. Nous, moi, j'habitais à Clichy, à un moment donné, enfin, à côté de Clichy. À Clichy, c'est normal. À Clichy, il y a 3 voies à un moment donné. Bam, tu te mets en double file, t'as plus qu'une seule voie sur 3. Mais c'est un truc de fou. Les gens,
ça, c'est la conduite à la niçoise.
Ah, ça, ouais. Ou alors la conduite à la parisienne. Parce que les mecs, ils trouvent normal de se foutre en double file.
Après, il y a plus de place pour se garer.
Non, il y a plus de trucs de livraison comme avant. Rappelle-toi qu'avant, t'es dans les villes, t'as des trucs de livraison et tout. Ah, mais le vrai problème aujourd'hui, au lieu de se prendre la tête sur les pistes cyclables, il y a peut-être trop de bagnoles dans les centres-villes de nos villes, en fait, à un moment donné.
Est-ce que c'est normal que pour un jusqu'au boutisme écolo, on puisse amputer des commerces?
Ça, par contre,
pareil, moi, dans le village où j'habite, dans ma rue, pareil, on nous a mis une piste d'aéroport dans une rue qui est toute petite. Et si t'as 5 vélos par jour, c'est vraiment un miracle, quoi.
Mal,
donc, en fait, c'est de la posture, en réalité. Et là, tu te retrouves avec un commerçant qui va perdre du chiffre d'affaires au moment où on dit que les PME et les TPE sont en train de galérer. Et cet exemple à Bron, on le retrouve aussi dans un certain nombre de petites villes de bourg en France, quoi. Tout ça par une idéologie qui finit par être mortifère lorsqu'elle est mal utilisée.
Barbara.
Est-ce que la municipalité s'est enquis auprès de tous les commerçants? Parce que c'est ça aussi. La ligne de bus plus la piste cyclable, est-ce qu'à un moment, il y a eu une concertation avec les... Alors bien sûr les riverains, mais surtout avec les commerçants. Moi, je pense que tout ça, à chaque fois, se décide dans des conseils municipaux, en loose day, et ça ne concerne pas, enfin ça ne vient pas demander leur avis à ceux qui sont les premiers concernés. Donc encore une fois, la démocratie locale, parce que on pourfend le fait que à l'échelle nationale, on n'est pas entendu, etc. Mais croyez bien, à l'échelle locale, dans bien des domaines, on n'est pas écouté non plus. Il y a des mairies qui ne sont pas à l'écoute du tissu économique de leur ville. Il y en a, bien sûr, qui le sont, qui essaient de faire en sorte que les commerçants du centre-ville s'en sortent mieux. Mais vous en avez plein qui ne le font pas. Et de la même façon, d'ailleurs, la multiplication, là, je parle en tant qu'automobiliste, de nombre de places. Vous savez, les places de 5 minutes, là. C'est horrible aussi, ça. Vous pouvez pas vous garer en ville. Vous avez une multiplication de
avec
places que pour 15 minutes.
Avec un minuteur.
Moi, je me suis déjà fait envoyer la fourrière avec ça.
Putain.
Oui, c'est comme la rue de Rivoli. Je l'ai prise aussi. Je savais pas que c'était interdit aux voitures. Bon. Moi, je ne lis pas beaucoup non plus les panneaux, faut dire. Donc. Je conduis.
C'est vrai que
c'est accessoire.
Tous ces panneaux.
C'est accessoire.
Les panneaux ne regardent pas la ligne droite.
Téléphone au volant.
Le problème des pistes cyclables, c'est que le truc bidirectionnel, quand tu n'es pas au courant, moi je me suis retrouvée plein de fois en face avec un vélo qui m'arrivait en plein devant. Et ça, c'est hyper dangereux parce que tu renverses à Versailles, c'est le règne, c'est la ville des vélos cargo. Donc excuse-moi, mais quand t'as un vélo cargo au milieu de la rue, tu n'avances plus. Toutes les voitures sont à 20 parce que t'as madame qui transporte les trois gosses et qui pédale. Et toi, tu n'avances pas parce qu'elle est avec son vélo cargo. Donc ça aussi, les vélos cargo, moi, j'en ai ras-le-bol des vélos cargo.
On va en parler avec Samuel. Il est restaurateur. Il est du côté de Gironde. Bonjour Samuel.
Bonjour à tous.
Bonjour. Est-ce que les pistes cyclables, ça fait du mal au commerce?
Alors, les pistes cyclables, alors moi je sais pas si les pistes cyclables font du mal au commerce, mais moi sur mon sujet à nous, alors moi j'habite à Bordeaux, donc nous c'est la ville justement où la piste cyclable fleurit partout. On supprime les stationnements, c'est le grand jeu à Bordeaux, c'est de supprimer les stationnements des voitures. Là encore ce matin, Dans mon quartier, on a encore supprimé 2 places pour mettre des arceaux à vélo. Avant-hier, c'était 3 places pour mettre des arceaux à vélo. Le projet, c'est carrément pire que ça. C'est-à-dire que nous, on a une piste cyclable. Alors, il y a des projets, vous savez, dans les grandes villes qui sont subventionnés par l'Europe. Le budget à Bordeaux, c'est 150 millions d'euros subventionnés par l'Europe pour faire le fameux projet rêve de Bordeaux. C'est 11 grandes lignes de vélo d'extérieur de Bordeaux pour rentrer dans Bordeaux. Et là, on décide, tout d'un coup, il y a un an et demi, il y a une année à peu près, de dire, dans notre rue, à nous, il y a déjà une piste cyclable qui existe, qui est mélangée avec la voie de bus, et il y a une place de stationnement. Et ils se sont dit, les places de stationnement, on va les supprimer et on va faire une piste cyclable. Mm-hmm. Mais sauf que moi, j'ai mon restaurant qui est là.
Ouais.
Moi, c'est un restaurant qui est là depuis 22 ans maintenant. J'avais déjà appelé au Grande Gueule il y a quelques temps. Moi, les gens viennent chez moi en voiture, puisque je ne suis pas dans Bordeaux Centre. Je n'ai pas de boutique autour de moi, je suis dans un quartier résidentiel. Le projet, c'est de supprimer les stationnements. Nous, on a monté une association pour ça, qui est maintenant une association qui s'agrandit depuis un an et demi. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus dans toutes les villes de France. Et donc la mairie joue un peu avec nous, c'est-à-dire qu'elle nous dit « Non mais attendez, en fait on va revoir le projet, non mais oui vous aviez raison ». Nous on a fait un contre-projet, donc nous on est allé plus loin que ça, c'est-à-dire que nous on a redessiné.
Ouais, d'autres propositions, ouais.
On a vraiment fait une proposition de contre-projet, c'est pas juste dire « Votre idée elle est pas bonne, on n'en veut pas ». Il faut pas aller comme ça, parce qu'avec les mairies il faut essayer de discuter quand même un petit peu avec les mairies. Ouais. Le contre-projet est intéressant, alors on vous dit « Oui mais nous on va abandonner le nôtre », mais rien n'est écrit, et pendant ce temps, on vous enlève des stationnements, mais ça, c'est partout dans Bordeaux. Hein. Et en effet, si vous regardez à Bordeaux, et ça, le maire peut dire ce qu'il veut, il suffit d'appeler juste la Chambre des commerces de Bordeaux, et en effet, il y a 30% de magasins à Bordeaux qui ont
des pistes cyclables. Mais Samuel, justement, vous avez fait une contre-proposition, vous dites on doit pouvoir s'arranger, c'est un peu projet contre projet. On a le boulanger de Bron qui est avec nous, Abdel, la boulangerie Panéo. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour
RMC. Salut, bienvenue Abdel. Alors effectivement, c'est problématique cette piste cyclable, ça vous menace vraiment?
Ah oui, ça met en péril notre business plan, le commerce... Est fortement impacté dans le sens où nous sommes sur une voie très passante, 30 000 véhicules jour,
ouais.
Et on nous supprime ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire une bonne partie du parking. Ça fait 40% en tout de surface en moins,
ouais.
et à terme, ce sera plus viable. Hein.
Vous aviez été consulté? Vous étiez informé de ce qui allait arriver?
On était, lorsque nous avons acheté en 2015, il y avait déjà sur le PLU un projet, mais qui était de 2 mètres de préemption. Et lorsque nos amis écolos sont arrivés en 2019, c'est passé à 5,50 mètres. Ils ont rajouté les voies lyonnaises dans les deux sens, piste cyclable avec les vélos cargo, donc c'est plus large, et des arbres. Sachant que nous, déjà, notre parking est arboré. On a des beaux oliviers. La communication, il n'y en a pas eu.
Vous
avez mis devant le fait accompli, c'est comme ça. Et pas
mais aujourd'hui, est-ce que quand vous allez à la métropole, vous faites valoir effectivement votre activité économique, puis surtout la survie de votre activité, parce que derrière, il y aura peut-être des licenciements à la clé. Qu'est-ce qu'ils disent,
Abdel?
Abdel,
oui.
Une commande.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils disent à la métropole?
Que disent-ils?
Ils disent qu'ils ont raison surtout et qu'il faut faire ce que eux nous demandent, tout simplement. Il y a à aucun moment ils nous demandent notre position, notre avis.
Vous allez être dédommagé.
On a fait des propositions nous d'aménagement pour qu'on puisse contenter tout le monde, mais il y a aucune oreille à l'écoute. Hein.
Est-ce que vous serez dédommagé?
Oh, vous savez, hein, c'est si je vous parle de la proposition qu'ils nous ont faite, c'est juste dérisoire. Hein, on aurait préféré un euro symbolique, ça aurait été plus.
En plus, c'est de l'argent public, donc
on
vous empêche de travailler et ensuite avec l'argent public, on va vous dédommager.
C'est-à-dire qu'en fait, on venait faire les courses chez vous parce qu'on avait un parking juste à côté, on descendait, on venait faire les courses, hop, et puis on embarquait dans la voiture, quoi, en fait, Abdel. C'est
voilà,
ça.
C'est surtout que voilà, comme je vous disais, on est sur une voie très très passante. Il y a très peu de piétons. On a fait venir un huissier qui a fait du comptage, c'est même pas 10%. hein, entre les vélos, les trottinettes et les piétons. Et 90%, on est juste derrière tout un gros pôle hospitalier, neurocardio, mère-enfant.
Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais.
Et les ambulances, les taxis, tous les camions d'ouvriers qui partent le matin, c'est pas en vélo qu'ils se déplacent, ces gens-là. Donc eux, c'était très pratique. Ils rentraient, ils prenaient leur formule, ils s'en allaient. Et ils nous disent, oui, mais vous verrez, ce sera remplacé par 5-6 000 vélos jour. Donc moi, j'aimerais bien 5-6 000 vélos jour, sauf que c'est pas, premièrement, c'est pas les mêmes piétons. Ouais. Moi, je suis pas très pertinent, sachant que je trouve que ça passe pas très pertinent parce qu'on est à 500 mètres du périph. Donc,
Abdel, on se retrouvera quand ce sera terminé, effectivement, pour voir, vous nous tiendrez au courant.
Ça sera trop tard.
Oui, mais comment lui derrière, il va rebondir aussi. C'est surtout ça qui est important.
Ce qui est terrible, c'est qu'il va être obligé de licencier sans doute du personnel.
Merci Abdel d'avoir été dans les GG, les pistes cyclables. Est-ce qu'elles tuent les commerces? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? On va regarder. Vous mettez oui à quasiment 80%.
Alors c'est vrai que depuis des années on généralise ce dispositif de conduite accompagnée et selon les spécialistes il a démontré son efficacité. Les candidats qui sont issus de cette conduite accompagnée réussissent l'examen pratique du permis dans 75% des cas contre 59% pour la filière classique et leur accidentalité la première année de conduite autonome recule de 20 à 30% voire davantage à l'international lorsque le dispositif est complété par des restrictions, notamment interdiction de conduite la nuit, de transporter plus d'un passager, etc. Bah oui. Alors, est-ce que les adolescents sont suffisamment matures pour commencer à apprendre à conduire dès 14 ans? Qu'en pensez-vous, tiens, Barbara?
En sixième, on pourrait déjà. 14, 13.
Aujourd'hui, c'est 15 ans à la conduite accompagnée.
Ça a déjà été rabaissé. Ouais.
Donc, déjà.
Quelle est la différence entre 14 et 15 ans?
Quelle est la différence entre 14 et 15? Alors, regardons à l'international. Alors, il y a deux pays où le permis de conduire est à 14 ans. C'est un, le Canada, dans certaines situations. Et certains États américains, pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise ces deux pays? La distance. Ouais. Donc, dans les États américains les plus ruraux, les très profondément ruraux, genre Iowa et compagnie, Dakota, etc., on peut un peu plus comprendre pourquoi on rabaissera encore plus à 14 ans, par exemple, l'âge de conduite, parce que il faut que les gamins ils se déplacent, y compris pour aller à high school, etc. Ouais. Donc voilà. En France, où l'on a quand même, à part effectivement dans les zones rurales, à part en France, on a quand même des petites distances et essentiellement une population qui vit en métropole. Quelle est l'utilité pour un gamin de 14 ans d'avoir la voiture? Et dans les zones rurales, ou même, j'en vois certaines fois dans les banlieues chics, vous avez maintenant ces espèces de petits cubes horribles là, la petite voiture Citroën, ça s'appelle Ami, voilà, qu'on peut conduire sans permis. Ouais. Alors, faut avoir quand même papa et maman qui ont un bon compte en banque, parce que ça coûte
10 000.
Une blinde.
Oui,
voilà.
10 000 euros.
Oui, mais t'as toujours des gens, bon, voilà. Tu peux les louer aussi, hein. Je crois que c'est 100 euros par mois pour la louer. Donc, je peux comprendre, par exemple, en zone rurale, pour aller jusqu'à ton bus, ou etc., d'avoir, ou un petit scooter, ou une petite amie. Enfin, de là à baisser. On n'est pas dans le Dakota, on n'est pas dans l'Iowa, on n'est pas dans les plaines canadiennes. Mais non, ça n'a aucun intérêt, à part faire un peu d'argent pour les compagnies d'auto-école.
Donc,
qui a fait cette étude?
Non, mais ce que disent les responsables de cette étude, ils disent qu'aujourd'hui, les ados sont utilisateurs de la route plutôt qu'avant, parce qu'il y a les trottinettes, il y a les deux roues, etc.
Et donc,
ils connaissent assez peu les règles et les dangers. Donc, si ils commencent dès 14 ans à faire ce processus de conduite accompagnée, ils vont apprendre aussi des règles importantes.
Non, il y a le BSR
de la
collège.
Route et autres.
Oui, rigole. En troisième, on leur fait passer déjà.
C'est pas un permis.
Ah non, c'est pas le permis, mais ils ont déjà quelques notions pour circuler en vélo et en trottinette.
Et l'autre argument, ils disent finalement, il n'y a pas une grande différence de maturation entre 14 et 15 ans. C'est assez marginal. Donc, si c'est 15, pourquoi pas 14, Antoine Hirs?
Moi, j'étais déjà surpris qu'on abaisse de 16 à 15. Et qu'on abaisse encore à 14, ça me paraît dangereux. Mais pour l'apprentissage de la route, on fasse de la mobilette, etc. Moi, j'ai fait la mobilette, j'ai fait la formation, ça s'appelait la SSR à l'époque, et j'ai connu la route à vélo, à mobilette, et donc tu apprends la route. Je comprends pas bien l'argument de dire il va falloir leur mettre une voiture entre les mains pour qu'ils apprennent la route. Voilà, attendons 15 ans, ça sera déjà bien. Et la conduite accompagnée, par contre, c'est super bien, mais on peut attendre 15 ans.
Bruno Poncet. Qui a fait de la conduite accompagnée ici,
moi,
d'ailleurs?
Non,
Antoine.
Moi.
Moi, je suis un très bon conducteur. Pas, je crois
non,
pas.
Ça n'existait pas pour mon époque. Pas, t'attendais 18 voilà. ans.
Mais hein. Vous êtes des boomers.
Ah bah ça, on est
et Antoine,
mais...
c'est le jeune de la bande.
Oui, mais on n'a pas eu d'accident. T'as eu des accidents, toi?
Je dirais rien, Barbara. Bon, d'accord. J'en ai eu quelques-uns. Bah, quelques, pas beaucoup, mais quelques-uns.
Ouais, mais ça fait très longtemps que tu conduis aussi.
Oui, oui, non, c'est sûr. Hein.
Puis, une ancienneté.
Ça fait très longtemps que je conduis mal, surtout. Non, mais moi, je sais pas, mais on a un vrai problème en France avec le permis, si tu regardes bien. On le donne de plus en plus tôt aux enfants. Aujourd'hui, tu vas avoir le permis à 17 ans.
Oui.
C'est pas 18 ans.
Ouais, c'est 18 ans. Depuis Mme Borne, c'est 17 ans maintenant.
17 ans. Donc, bon, après, moi, je pense que oui, effectivement, tu peux entre 17 et 18 ans. Mais le problème,
surtout
c'est
si,
que.
Surtout si c'est des voitures automatiques.
On n'a pas de suivi du permis. En fait, un gamin qui a le permis à 17 ans, il peut être aussi dangereux qu'un gamin à 18 ans, c'est pas le sujet. Mais des fois, à 17 ans, tes copains, t'es encore au lycée, tu peux vite un peu te faire emmener. Je connais un gamin, mais il y a eu un accident dans le patelin où vit mon pote. Un gamin de 17 ans, il a pris la voiture le soir à ses parents, il s'est foutu dans un mur, il a tué deux personnes à côté de lui, hein, et deux gamines de son âge. Après, il y a un truc, c'est que vous peut-être me donner le permis à un gamin de 14 ans, 15 ans, même en conduite accompagnée, qui a un vieux de 75, 80
ans. Ah, ça, je suis bien d'accord.
Qui commence à être dangereux, pas les mêmes réflexes et tout.
Bien
à
d'accord.
14, 15 ans, quand même, qui est un peu plus tonique.
J'en connais un, et je peux vous dire, c'est un danger public, et on sait plus quoi faire.
Tu peux parler d'Alain Marchal quand il est pas là aussi.
Avec sa Picanto.
Avec sa Picanto.
Très dangereux. Si vous croisez une Picanto à toute allure à Nice, surtout c'est qui Alain roule qui est
avec
en vacances.
Sur les, sur gominé, les cheveux blancs gominés.
Avec et surtout le bras, comme
le
ça,
bras, ouais.
ça. Le bras plié le bras, sur ouais. la portière. Bah oui,
et Lilou sur les genoux.
Et tu bronzes
avec le
côté.
Maillot de Nice.
Xavier est avec nous. Bonjour Xavier. Il est propriétaire de 3 auto-écoles du côté de la Haute-Garonne à Revel. Bonjour Xavier.
Salut Olivier, salut les GG.
Alors vous qui êtes un professionnel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de baisser la conduite accompagnée à 14 ans ?
Absolument pas, pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que déjà à la base, quand on avait baissé à 15 ans la conduite accompagnée, les élèves ne pouvaient pas passer le permis à 17 ans s'ils n'étaient pas issus de la filière de la conduite accompagnée. Or aujourd'hui, tous les élèves peuvent passer le permis dès l'âge de 17 ans. Et là, en baissant à 14 ans, ce que ça va faire mécaniquement, c'est qu'on va dire qu'ils peuvent commencer à passer le permis à 16 ans. Le souci, c'est que ça met davantage de personnes en situation de pouvoir passer l'examen. Sauf qu'en face, on n'a pas davantage d'inspecteurs. Donc le seul truc que ça fait, c'est que ça contracte les temps d'attente pour avoir une place d'examen. Et quand vous entendez là tout le temps que ça gueule à droite à gauche parce que les élèves peuvent pas passer le permis parce que les formations durent 3 plombes, ben mécaniquement on nous y oblige. On nous met d'autant plus d'élèves à former, mais avec beaucoup moins d'inspecteurs pour passer l'épreuve. Donc ben au bout d'un moment, mécaniquement ça coince. Hein. Et autre point, c'est qu'à 14 ans, souvent, et ben notamment les garçons, la maturité est pas toujours géniale. Déjà, quand vous voyez que certains, vous leur faites passer le BSR pour être en scooter et les notions de danger, c'est chaud. Non, il y a des choses bien mieux à faire. Déjà, quand les élèves conducteurs veulent avoir l'ami, ce qui serait bien, c'est de leur faire passer le code. Parce qu'aujourd'hui, vous passez juste le BSR pour le scooter et vous prenez une petite amie, vous n'avez absolument pas le code de la route.
Exactement.
C'est un scandale. Vous voulez baisser le tarif des permis de conduire pour les élèves, c'est pas compliqué. Passez-nous en franchise de TVA. Les prix, mécaniquement, on va les baisser de 20%. Ça coûtera moins cher pour les gamins. Mais sauf que comme on rapporte plus d'un demi-milliard de TVA par an à l'État, je vous garantis qu'ils vont pas le faire. Hein. Et après, c'est nous qu'on accuse. Donc, au bout d'un moment, mettez plutôt des mesures que nous, on va préconiser pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien la formation et qu'il n'y ait pas de couler d'étranglement pour le passage de l'examen. Aujourd'hui, on libère les élèves en conduite accompagnée. On libère les élèves en conduite supervisée. Quand on fait les permis remorques, les petits, les B96, c'est nous aussi qui libérons. Je veux dire, si on veut qu'il y ait toujours un passage devant un examen, devant un inspecteur, j'ai aucun souci avec ça. Mais pendant la période probatoire, laissez les élèves conduire, parce que qui mieux que nous sait si l'élève il est prêt ou pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui perdent leurs moyens le jour de l'examen, faut pas se leurrer. Hein. Et derrière, après leur fin de période probatoire, pour avoir leur permis définitivement validé, là, vous les passez devant un inspecteur et vous allez voir comment les taux de réussite, ils vont monter bien plus haut parce que, comme vous l'avez dit, quand on a fait de la conduite déjà préalablement grâce à la conduite accompagnée, si on faisait la même chose pendant sa période probatoire, on passe devant l'inspecteur et 75% long du premier coup. Donc, il y a des solutions, mais c'est des gens de terrain comme moi qu'il faut écouter et pas des... qui font des putains de d'enquêtes à 2 balles là, et après je sais même pas à qui ils les font parce qu'ils m'ont pas sollicité en tout cas.
C'est clair.
Xavier qui pousse un coup de gueule au passage. Merci Xavier d'avoir appelé au 32-16. Après moi ça me semble pas illogique de dire que plus un gamin est confronté aux règles de la conduite, le code de la route, des règles de sécurité, c'est une bonne chose. Et je pense que ça donne une maturité quand tu commences à faire la conduite accompagnée avec tes parents. Toi, Antoine, tu l'as fait.
Ouais,
je pense que tu es un meilleur conducteur que quand tu commences
à 18 ans, oui, mais... tout seul.
Oui, à 14 ans. Ouais. Pardon.
On est dingue, déjà 14 ans.
À 14 ans.
Si vous les voyez, les élèves de 14 ans.
T'as pas la notion de danger que la voiture peut représenter. Mais justement,
tu
peux
14 ans, c'est du 4e, 3e.
Bah oui, mais tu peux l'apprendre, justement.
Et, pardon, mais on dit mineur de moins de 15 ans, la majorité pénale, là. T'étais même pas responsable pénalement avant 15 ans. Et là, tu pourrais conduire. Waouh, ça me paraît.
Ça, c'est peut-être pour commencer à nous annoncer le droit de vote à 16 ans.
Imagine un peu, les filles, ça commence à te chatouiller à 14 ans. Tu prends la bagnole de tes parents.
Attends, est-ce que j'ai Célim? Célim, il est pour. Il va avoir une minute pour nous convaincre. Célim, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone.
Ah, vous êtes gérant d'auto-école, vous aussi. Alors, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord dans la profession. Alors, Célim, je vous laisse une minute.
Allez, je suis totalement pour. Bah, déjà, la première, c'est que le permis à 17 ans, ça a totalement cassé la conduite accompagnée. Il y a tous les gens qui étaient partis, tous les élèves qui étaient partis en conduite accompagnée, ils ont cassé leur formation. Et on le voit en termes d'accidentologie. Aujourd'hui, depuis le mois de, là, on est au mois de juillet, c'est en pleine hausse, les accidents de la route. Qu'à 14 ans, on met déjà des enfants sur des mobylettes, des voiturettes, des trottinettes tout seuls. C'est-à-dire que là, à 14 ans, quand on parle de conduite accompagnée, ils sont accompagnés avec quelqu'un d'expérimenté à côté.
Ouais,
plus on apprend les choses tôt, garde les bons réflexes, les bonnes autonomies. Et j'aimerais rajouter une chose, il faut oublier aussi, on oublie une chose, c'est qu'on autorise quand même à 16 ans le permis 125. Autorise déjà à 16 ans de mettre des gamins sur une autoroute, sur un deux roues.
Ben Célim, ça y est, vous avez eu une minute avec des arguments.
Oui, c'était déjà débile, 16 ans.
Bravo Célim.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
Le RN est-il de droite ou est-il de gauche? Et au moins du point de vue de l'économie, on a du mal à comprendre et à le situer aujourd'hui, le RN.
Il y a clairement un double discours. Je vous conseille de lire la tribune de Jordan Bardella ce matin dans le Figaro. On a l'impression qu'elle a été écrite par David Lisnard, le maire de Cannes. C'est une tribune très libérale, pro-business, pro-entreprise, etc. Où Jordan Bardella décrit la France comme un enfer fiscal, il faut baisser les dépenses publiques, etc. Bon, très bien. Et puis, lorsque vous regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière, vous avez le RN qui vote avec la gauche de nouveaux impôts, notamment ce fameux impôt sur la fortune improductive, concept assez nébuleux d'ailleurs. Donc on est dans un en même temps, c'est-à-dire qu'il y a visiblement deux lignes, même si ces deux lignes ne sont pas assumées comme telles. Il y a la ligne Bardella, qui est plutôt une ligne droite libérale, qui se rapproche de ce qu'un Bruno Retailleau, un Éric Ciotti ou un Éric Zemmour pourrait dire, et David Lisnard. Et puis il y a une droite plus à gauche, incarnée par Jean-Philippe Tanguy, qu'on voit derrière toi, Alain, qui est un peu le monsieur budget du RN, et par Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen se range plutôt du côté de Jean-Philippe Tanguy. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux lignes, à un moment donné, vont s'affronter forcément, puisque d'autant plus que si c'est Jordan Bardella le candidat à l'élection présidentielle, pour l'instant Marine Le Pen est empêchée, on verra si tout le RN se range derrière cette ligne Bardella, qui n'est pas celle d'une partie du Rassemblement National.
Explication. Il y a deux lignes parce que il y a deux géographies. Les points forts historiquement du RN, c'est d'un côté le sud-est de la France, et de l'autre côté le Nord-Pas-de-Calais. Or, c'est deux sociologies électorales complètement différentes. Le Rassemblement national du sud-est, c'est beaucoup de petits patrons, d'artisans, de petits commerçants, de petits chefs d'entreprise qui sont libéraux, anti-impôts, qui peuvent adhérer au discours d'Éric Ciotti ou de David Lisnard. Et par contre, le RN de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, celui où M. Tanguy est élu, celui où Marine Le Pen est élue à Hénin-Beaumont, c'est au contraire un monde ouvrier laminé par la désindustrialisation avec d'anciens électeurs communistes.
Ils sont obligés de faire le grand écart.
Et donc, comme il y a deux géographies, deux sociologies, ils font le grand écart entre d'un côté, on fait la politique de ses électeurs, on fait la politique de sa circonscription.
Une fois que tu es au pouvoir, il faut trancher.
Bien sûr,
sinon, ça devient n'importe quoi.
Et même, le plus, c'est que non seulement il y a deux lignes, la ligne Bardella, la ligne Tanguy, mais même Tanguy, moi, je l'ai entendu il y a un mois, c'était le vendredi 10 octobre quand il a fait un discours. En 30 secondes, il a dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, Tanguy a réussi à la fois à parler comme Alain Madelin et comme Lénine. Il a dénoncé les sociaux traîtres, ce qui est une expression typiquement communiste. Il a demandé des baisses d'impôts, il a demandé la baisse de la dépense publique, mais en même temps, il voulait la retraite à 60 ans et il voulait plus de fonctionnaires et des fonctionnaires mieux payés. Alors je ne sais pas comment il arrive à tout faire tenir en voulant tout et son contraire et à résoudre cette équation impossible. Moi, je ne sais pas comment on a à la fois moins de dépenses publiques, la retraite à 60 ans, plus de fonctionnaires, bon, et moins d'impôts. Donc voilà, et une incohérence totale.
Est-ce que les Français vont pas s'en rendre compte?
Parfaite démagogie.
Et les Français vont s'en rendre compte là. Est-ce que les masses sont pas en train de tomber?
Alors ils pourront, mais ils continueront. Non, les électeurs continueront pas à voter pour le RN.
Moi, je pense pas que les lignes vont s'affronter, mais je pense qu'ils sont en train de jouer un jeu très dangereux parce que le RN est en train de devenir la République en marche en réalité avec le en même temps Marine Le Pen.
Encore de la marge.
Il va aux États-Unis. Oui, mais tu verras dans... J'espère pas qu'ils arrivent au pouvoir, donc je vais pas dire tu verras.
En tout cas, ils sont les favoris aujourd'hui.
Marine Le Pen qui s'est dite de gauche dans les médias américains. Jordan Bardella, c'est le commercial façon GQ Magazine. Lui, il va séduire les entrepreneurs. Et Jean-Philippe Tanguy, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Il est là, un coup à droite, un coup à gauche, il danse comme ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a, on arrive à une macronisation du Rassemblement National. Aujourd'hui, leur seule carte, entre guillemets, positive et vierge, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'ils peuvent dire on n'a jamais été au pouvoir. Mais je pense que, en continuant sur ce chemin, on a vu ce que ça a donné avec Emmanuel Macron. Et s'ils arrivent au pouvoir, ce que je ne souhaite pas, on arrivera aux mêmes dégâts parce que la ligne n'est pas claire. Et quand la ligne n'est pas claire, c'est qu'il n'y a pas de conviction ferme au fond.
Barbara.
Il peut y avoir une impression de politique gribouille où effectivement, dans le délire absolu de ce qui se passe à l'Assemblée et avec cet effet loupe, puisqu'on y assiste en direct, je pense qu'on s'est jamais autant intéressé au débat à l'Assemblée.
Oui,
je pense
que,
honnêtement, je pense que si on s'était intéressé parfois au débat à l'Assemblée, on aurait vu que ça n'avait ni queue ni tête et que c'était le bal des girouettes. Et donc le RN, pas plus que d'autres, ne sont des girouettes. C'est juste que ils font avec une Assemblée nationale qui aujourd'hui, enfin franchement, c'est un canard sans tête. Ça ne ressemble plus à rien. Et d'ailleurs, comme ils savent très bien que ce budget va pas être adopté, c'est la foire au n'importe quoi. C'est la foire.
Mais la foire, la démagogie. Surtout.
C'est la foire. Exactement. Fouille, voilà. Le RN
et
y
le
participe.
Sénat va retoquer beaucoup de choses.
À mon sens, le RN y participe en grande partie pour des questions de stratégie, de déstabilisation politique. C'est-à-dire que eux, ils ont une stratégie beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile que le chaos insoumis, gueulard, et où on éructe sur les bancs à hurler, à dire n'importe quoi. Eux, ils ont une façon plus subtile de le faire, qui n'est pas moins efficace d'ailleurs, à mon avis, qui est tout aussi efficace. Par ailleurs, je rejoins ce que disait Jean-Loup, on répond à son électorat. L'électorat du Rassemblement National au cours de la décennie qui s'est écoulée, c'est-à-dire depuis que Marine Le Pen a repris le parti en main, elle s'est de plus en plus diversifiée du point de vue des catégories socio-professionnelles. Vous avez aujourd'hui, le Rassemblement National est un parti qui, à mon avis, est parmi les partis politiques qui est le plus divers d'un point de vue sociologique. Vous avez, il commence à arriver dans des catégories socio-professionnelles de classe moyenne supérieure.
Les cadres.
Il commence à y avoir des cadres, des enseignants qui commencent à voter Rassemblement National, des retraités, des ouvriers, des petits entrepreneurs, des gros entrepreneurs. Donc, à un moment donné, il faut satisfaire tout le monde. Mais, ce qui motive le vote Rassemblement National, c'est les priorités que les électeurs donnent au programme. Dans le programme du Rassemblement National, il y a un certain nombre de lignes. Et quand vous votez RN, vous faites le choix par rapport à vos priorités. Si vos priorités, par exemple, c'est la question du contrôle de l'immigration, vous vous dites, je vais voter RN. Ouais. Si votre priorité, c'est la libéralisation de l'économie, etc., vous n'allez pas voter RN. Donc, aujourd'hui, la priorité de l'électorat RN, on va voir ce que ça va être en 2027. Parce qu'à mon avis, si le RN est à 35, c'est pas sur des questions économiques. C'est que les gens, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, sur la question de l'État nounou, etc., ils ont envie d'autre chose. Et c'est plutôt ça, les fondamentaux du RN. Et je pense que sur ces fondamentaux-là, il n'y a pas droite-gauche, c'est le RN qui donne le là.
C'est difficile de dire précisément, ça sera ce thème-là qui sera majeur en 2027. Néanmoins, quand même, le thème de la dette et de surtout comment on continue à financer un modèle social qui n'est plus finançable, parce que si on veut garder notre modèle social, continuer à mettre 450 milliards sur les retraites chaque année, il va falloir quand même trouver des solutions. Et c'est sur ça que Jordan Bardella, si c'est lui le candidat, il sera jugé. Pour l'instant,
je trouve qu'il évite
assez habilement les balles.
Ils ont présenté un contre-budget.
Oui, mais c'est un budget qui est de 100 milliards. Enfin, c'était n'importe quoi le budget. Pardon, pardon, mais le budget présidentiel 2022 de Marine Le Pen, c'est plus de dépenses quasiment.
Non, je te parle du contre-budget
qui a été présenté il y a deux semaines.
C'est plus de dépenses quasiment que Jean-Luc Mélenchon.
Pas dans le budget il y a deux semaines.
Je parle du présidentiel, puisqu'on parle à présidentiel.
Moi, je te parle celui il y a deux semaines.
Moi, ma référence est 2022.
Oui, mais ils se sont adaptés à la situation de la dette.
D'accord, oui, très bien. Mais on verra. Et là, pour l'instant, Bardella évite les balles, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'il soit concret sur ce qu'il veut faire de ce modèle social. Et pour l'instant, c'est pas concret.
Sauf que si tu veux gagner une élection présidentielle, tu ne peux pas gagner si tu veux faire 50+1 uniquement sur la sécurité et l'immigration.
Tout à fait.
Donc tu es obligé de donner des gages et de donner une ligne sur l'économie. C'est pour ça que Jordan Bardella d'ailleurs est allé au MEDEF, ce qui était une première d'ailleurs. Et ça, il va falloir qu'il clarifie effectivement si tu mets plus d'État dans les campagnes là où il y a effectivement.
Par exemple, sur la retraite, on comprend plus rien.
Bah, un manque. Mais même il faut que tu dises précisément ce que tu veux sur les retraites.
Parce que Macron
précisément ce que tu veux.
Enfin, Barbara, tu peux pas dénoncer Macron et être indulgent à l'égard de Bardella, Marine Le Pen.
Je suis pas indulgent, je te dis.
Effectivement, Marine Le Pen, comme le dit très justement.
Sur les retraites, tout le monde change d'avis.
Ça comment tu clarifies cette position si tu veux aller au de 50
ans, bien sûr,
faut que tu choisisses ton camp à ce moment-là.
Non, mais là où je suis d'accord à la fois avec toi, mais aussi avec Barbara, c'est-à-dire que je pense que l'électorat ouvrier, typiquement du Nord-Pas-de-Calais ou de la Picardie, qui est anciennement communiste, qui est social, qui est étatiste, continuera à voter pour le Rassemblement National, même si le Rassemblement National est plus libéral,
exactement.
Même si cet électorat est en désaccord et désapprouve ce tournant libéral, ils continueront en fait à voter pour le RN
parce
pour
qu'ils sont
raisons.
Habités par la valeur travail.
Voilà,
c'est exactement. Pas des gens qui sont au chômage parce qu'ils aiment ça.
Des raisons liées à l'immigration et à l'insécurité.
Sauf qu'au sein des RN, tout le monde travail. N'est pas d'accord avec ce virage. Vous verrez, il y aura des oppositions à ce virage libéral.
Il y aura des tensions Tanguy Bardella.
Je pense que Jean-Philippe Tanguy n'acceptera pas ce virage libéral parce que lui ne l'aimait.
Oui, mais justement, parce que si vous regardez De Gaulle aussi, il était ni droite ni de gauche. Alors à la limite, parce que c'était pas le même contexte économique, mais De Gaulle, il était ni droite ni gauche.
Voilà.
C'est bien pour ça que tout le monde se revendique de Gaulle.
Hervé est chef d'entreprise du côté de la Gironde. C'est une PME, je crois. Bonjour Hervé.
Absolument. Bonjour messieurs, dames.
Alors, est-ce que vous avez compris la ligne économique du RN alors?
Je pense que le RN aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont ancrés. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi à l'écoute des gens, contrairement à d'autres. Moi, je suis dans la circonscription d'Edwige Diaz.
Oui.
Je sais pas comment elle fait pour dormir, parce que tous les week-ends, elle est sur le terrain. Ils sont sur le terrain, et ça ne se voit pas. Donc, je pense que les gens, eux, tout ce qu'ils voient à la télé, ça les intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est ce qui se passe tous les jours. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, dans un premier temps, de faire du social. On n'a pas le choix parce qu'on a une situation qui est compliquée.
On n'a plus d'argent pour faire du social.
Mais oui, mais on a des gros problématiques à régler. On a l'hôpital, on a l'éducation, et ensuite, ce qui n'est absolument pas le cas dans le budget aujourd'hui, et là je mets tout le monde sur le pied d'égalité, on ne parle plus d'économie, on ne parle plus de création de richesse, on ne parle plus de développement, et à un moment donné, une entreprise comme la mienne par exemple, on se retrouve en difficulté parce que les clients aujourd'hui, ils attendent. Ils attendent. Et je trouve que on sera obligé de faire les deux. J'ai l'impression qu'on est un pays de droite, mais qu'il y a un modèle social de gauche. Donc à partir de là, il faut toujours faire du en même temps, même si ça ne plaît pas aux gens.
Bah oui, mais Hervé, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Quand Bardella dit, c'est vraiment, il faut lire la tribune de Bardella, est très instructive ce matin. Il dit, les macronistes ont livré l'économie du pays à la gauche. Très bien, mais que font les députés RN en ce moment? Ils votent avec les socialistes. Ils votent les mêmes amendements.
Exactement.
Alors moi, je veux bien, moi, le double discours. On ne peut pas reprocher à Macron d'avoir manqué des lignes conductrices, d'avoir changé d'avis comme de chemise, et être indulgent avec Marine Le Pen, qui finalement fait à peu près la même chose. Et je pense que ça ne marchera pas. Je suis d'accord avec Abel, ça sera un échec.
Mais regarde même l'échange.
Il y aura la déception au bout de 6 mois.
Et regarde l'échange que l'on a au plateau. Hervé, c'est ça l'auditeur?
Oui.
Il dit qu'on devra faire du social. Et tous les deux, Jean-Loup et Barbara, vous avez parlé d'insécurité et d'immigration. Et tu rajoutes d'autres électeurs. Moi, j'ai des personnes que je connais qui votent Rassemblement National, qui ne lisent pas le programme, qui disent qu'ils veulent de la sécurité. Et il y en a plein qui disent, on a essayé la gauche, on a essayé la droite,
ça,
on veut juste faire sauter le système. Donc ne croyez pas que l'électorat est un groupe unique où tout le monde pense pareil.
Je
remercie Hervé d'avoir été avec nous et vous disiez... ça se voit pas, ils sont sur le terrain. Ben si, ça se voit. C'est-à-dire qu'aux dernières législatives, ils ont augmenté leur nombre de députés. Ils sont passés à 123 députés. Donc le travail de
d'ailleurs,
terrain.
D'ailleurs, le test, ça sera les municipales, le test.
Paye pour le Rassemblement National, effectivement. Merci Hervé d'avoir été dans les GIE. Alors économie, le Rassemblement National est-il de droite ou est-il de gauche? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, on va voir votre verdict. Vous le voyez plutôt de droite, le RN, à 62%.
RMC, 9h, midi. Le meilleur des grandes gueules.